Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous, relations et bel âge. Au programme, réparer, c'est préserver. Les barrières invisibles et je crée des instants doux. Bonne écoute.
Réparer, c'est préserver. Un texte de Amélie Clairon, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous. Le développement durable, ça vous tient à cœur? Réparer vos appareils est un pas en ce sens. Mais il reste beaucoup de chemin à faire, indique Équiterre. Voici pour vous quelques solutions pour réparer et garder ce qui est brisé, en attendant que les lois s'ajustent. Un appareil acheté récemment s'est brisé dans vos mains? La situation n'est pas rare, indique une étude pancanadienne d'Équiterre, publiée en octobre dernier sur l'accès à la réparation. Les deux tiers des Canadiens, 63 % ont dû faire face à au moins une panne ou un bris d'un de leurs appareils électroniques, ou surtout électroménagers, dans les deux dernières années. Et dans 28 % des cas, ces appareils ont fait défaut dès la première année suivant leur achat. Téléphone intelligent, aspirateur, cafetière à espresso, micro-ondes et grille-pain sont les premiers d'une longue série de produits qui ont présenté le plus souvent un défaut dans les deux premières années. Des freins à la réparation. Le problème ne s'arrête pas là. Les produits brisés sont en outre peu réparés. Moins d'un Canadien sur cinq, 19 % qui a connu le bris d'un appareil dans les deux dernières années, l'a fait réparer, indique Équiterre dans ce dernier rapport qui s'intéresse aux freins et aux leviers à la réparation des appareils. C'est un peu mieux au Québec, où une personne sur quatre s'engage dans cette voie, 25 %. En fait, plusieurs consommateurs ont la perception que leurs appareils sont irréparables. Cette impression est le premier frein, note Équiterre, suivi des coûts engendrés lors d'une réparation, pièces, main-d'œuvre, perception de rentabilité et de la difficulté à trouver les pièces ou les outils. Les réparateurs consultés pour cette étude, 30 au Québec, disent que la conception des appareils elle-même nuit à la durée de vie des produits et à la possibilité de les réparer à cause des changements technologiques fréquents, de la miniaturisation de certains composants ou encore parce que les pièces sont collées ou soudées ensemble. Il souligne aussi le coût et la rareté des pièces de rechange. En d'autres mots, les consommateurs ont leur part de responsabilité, c'est vrai. Mais les fabricants ont eux aussi un rôle majeur à jouer pour inverser la tendance du « tout jeter ». À eux de proposer des articles dont la durée de vie est raisonnable et qui sont facilement réparables. Changer la loi. Pour les convaincre de le faire, difficile de compter seulement sur leurs bons sentiments. La réforme de la loi sur la protection du consommateur et l'inclusion d'un indice de réparabilité est sur la table depuis 2019. Mais le gouvernement tarde à agir. Les auteurs, derrière ce récent rapport d'Équiterre, proposent aussi d'autres solutions, notamment la mise en place d'un fonds de réparation à l'échelle des provinces et la définition claire dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement de différents concepts, tels que l'accès à la réparation et l'obsolescence programmée. Nos astuces concrètes. Sans attendre la loi ou la bonne volonté des fabricants, vous pouvez déjà développer plusieurs bons réflexes. À Protégez-vous, nous sommes aux premières loges et nous nous intéressons depuis longtemps à la réparabilité. Nous avons donc plusieurs conseils à vous proposer, ainsi que quelques bons outils. 1. Consommez moins. Pour consommer de manière durable, un bon point de départ est de se procurer des biens en fonction de ses véritables besoins, bref, de limiter les achats futiles en se posant la bonne vieille question : est-ce que j'en ai vraiment besoin ? En 2020 et 2021, 91 % des personnes sondées au Québec ont acquis au moins un appareil électroménager ou électronique, indique le portrait québécois de l'étude pancanadienne réalisée par Équiterre avec la contribution de Recyc Québec. 2. Privilégier le seconde main. Selon l'étude d'Équiterre, seuls 7,9% des Canadiens qui ont vécu un prix d'appareil ces deux dernières années l'avaient acheté d'occasion. Très peu l'avaient loué ou emprunté. Pourtant, se procurer du seconde main, don, achat, location, partage, est une excellente stratégie. On limite la production et la circulation de nouveaux produits sur le marché, en plus de prolonger la durée de vie des biens en usage. 3. Réparabilité. Fiez-vous à nos outils. Neuf ou usagé, votre achat devrait être de bonne qualité. Nos évaluations permettent aux consommateurs québécois d'opter pour des appareils qui passent nos tests. Depuis quelques années, Protégez-vous a développé un indice de réparabilité en partenariat avec Recyc Québec pour de nombreux produits. Barbecue, laveuse, aspirateur, cafetière à espresso, robot culinaire, mélangeur et batteur sur socle. On est en développement pour d'autres produits, confirme Clémence Lamarche, chef des tests à Protégez-vous. Ainsi, en mars 2023, un critère de réparabilité s'ajoutera pour le test des lave-vaisselle. Notre indice de réparabilité tient compte de plusieurs critères. La disponibilité des pièces et leur coût, l'accès à de la documentation technique pour exécuter les réparations, pour les réparateurs et les consommateurs, les outils et le temps nécessaire à la réparation, ainsi que le degré de difficulté propre à chaque type d'appareil. Certaines réparations nécessitent le recours à un expert réparateur, par exemple le changement d'une pompe de laveuse ou le moulin d'une cafetière. D'autres travaux sont plutôt basés sur la possibilité que le consommateur le fasse lui-même, sans embûche. Protégez-vous dresse aussi des palmarès de fiabilité, basés sur les avis de notre panel de consommateurs, qui correspond à la proportion d'appareils qui n'ont subi aucun bris dans les premières années suivant l'achat. C'est un peu l'autre côté de la médaille, parce qu'il y a des produits qui sont fiables les premières années, mais qui ne sont pas facilement réparables, et vice-versa, nuance la chef des tests du magazine. Enfin, nous fournissons plusieurs conseils concernant la réparation des appareils, par exemple notre série d'articles « Réparer ou remplacer », qui comprend les laveuses, les sécheuses, les lave-vaisselles, les réfrigérateurs et les cuisinières. « Réparer, c'est préserver », texte de Amélie Cléroux, paru en janvier 2023, dans le magazine « Protégez-vous ». 4. Magasiner en portant attention. Lorsque vous magasinez un produit, vérifiez quelques détails qui sont souvent de bons indices de fiabilité et de réparabilité. Les gadgets. Il y a un attrait pour ce qu'on pourrait appeler les gadgets, mais ils tendent à briser plus rapidement, comme des panneaux de commande numérique ou de la connectivité Wi-Fi, illustre Clémence Lamarche. Ces gadgets sont souvent devenus la norme. Il devient difficile de trouver des appareils qui s'en passent. Pensons aux laveuses et sécheuses munies d'un panneau de contrôle numérique plutôt que des bons vieux contrôles mécaniques. La multiplication des modèles. Le couvercle de votre mijoteuse vieille de quelques années se brise. Pourrez-vous le changer si les modèles du fabricant changent chaque année? La multiplication des modèles, c'est souvent un signe que les pièces ne seront pas distribuées longtemps, note la chef des tests. À l'opposé, une entreprise qui fabrique année après année la même série d'appareils disposera sans doute des pièces détachées sur une plus longue période. La garantie du fabricant. Il s'agit d'un bon indice de fiabilité si, par exemple, un fabricant offre une garantie sur les pièces de 3 ans et un autre une garantie allant jusqu'à 5 ans. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'appareil sera réparé, donc que c'est un gain environnemental. N'empêche, c'est intéressant pour les consommateurs, souligne Clémence Lamarche. Des pièces en vente et des manuels détaillés. Si le site web du fabricant vous permet de commander facilement certaines pièces et d'accéder à des manuels d'utilisateurs de modèles antérieurs, c'est un bon signe de son implication dans la réparabilité de ces appareils. Les appareils à batterie. Il y a beaucoup d'enthousiasme pour les appareils sans fil, comme les aspirateurs et les tondeuses. Mais leur durée de vie n'est pas éternelle et il n'est pas toujours facile d'obtenir une nouvelle batterie ou alors d'en trouver une à un prix raisonnable, dit Clémence Lamarche. Si changer la batterie coûte 100 $, vous pourriez être tenté d'acheter un appareil neuf à 150 $, comme le fait remarquer la chef des tests. Une tondeuse électrique à fil demande plus de précautions, parce qu'il faut faire attention à ne pas passer sur ce fil, mais ça reste le choix le plus écologique, ajoute-t-elle. Une réparation accessible. Prenons un exemple. La marque Breville se classe généralement bien dans nos palmarès, notamment celui des cafetières à espresso. Or, en 2022, certains de nos réparateurs nous ont indiqué qu'ils n'avaient plus accès aux pièces de Breville. Le fabricant offre tout de même un service de réparation, plus cher selon les réparateurs, par le biais d'un de ses centres de service, à Toronto ou à Calgary. Si une entreprise a décidé de centraliser les réparations, peut-être que ce sera bien fait. Mais quels seront les délais? Si le client doit se passer de sa cafetière pendant 2 mois, il sera tenté de s'en acheter une nouvelle, fait remarquer Clémence Lamarche. La réparation est aussi liée au service de proximité. 5. Entretenez vos appareils adéquatement. Prendre soin de ces biens allonge leur durée de vie. C'est essentiel pour une consommation durable et ça permet des économies. 6. Exigez l'application des garanties légales. Vous pouvez faire pression sur les fabricants proposant des produits qui brisent trop souvent. La loi prévoit plusieurs garanties légales qui s'appliquent automatiquement et sans frais lors de l'achat d'un bien, rappelle l'Office de la protection du consommateur, OPC. Parmi ces garanties, il y a la garantie d'usage, la garantie de durée raisonnable, la garantie contre les vis cachés. La garantie sur la durée stipule, par exemple, qu'un objet doit pouvoir être utilisé pour un usage normal auquel il est destiné pendant une durée raisonnable, mais qui n'est pas définie. Elle laisse ainsi la possibilité aux tribunaux d'interpréter la notion de durée raisonnable. 7. Faites réparer vos biens ou réparez-les vous-même. Peu de gens font réparer leurs appareils. Pourtant, selon Équiterre, 81,5% des personnes qui le font sont satisfaites de la réparation. Les réparateurs existent, mais les gens ne les trouvent pas nécessairement, explique Clémence Lamarche, chef des tests du magazine. En partenariat avec Recyc Québec, Protégez-vous a donc fouillé pour vous. Nous avons dressé une carte interactive pour dénicher un réparateur près de chez vous. L'outil propose plus de 700 adresses. Nous avons aussi dressé la liste des endroits où il est possible d'avoir accès à des outils ou de l'expertise pour effectuer soi-même les réparations. C'était « Réparer, c'est préserver », texte de Amélie Cléroux, paru en janvier 2023, dans le magazine « Protégez-vous ».
Les barrières invisibles, un texte de Maya Ombazic paru dans la revue Relations dans le numéro 818, automne 2022. L'auteur, écrivaine, a entre autres publié le roman Dans les murs. Dans le texte suivant, elle nous présente des personnes dont le vécu permet de penser à nouveau frais la notion de frontière. Carlos, un musicien colombien, raconte sa traversée irrégulière de la frontière canado-américaine avec les yeux d'un non-voyant. Si ce n'était de sa situation socio-économique compliquée et de la violence qui la déchire depuis des décennies, la Colombie serait un paradis sur Terre. L'histoire et la culture y sont d'une grande richesse, la musique et la gastronomie marquées par des influences diverses, les gens chaleureux, le climat agréable et les paysages magnifiques. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Dans ce pays, les personnes les plus vulnérables n'ont trop souvent même pas l'occasion de décrier l'injustice qui s'abat sur elles. Un peu comme ce poupon né prématurément et à qui on a oublié, par simple négligence du personnel de la maternité, de couvrir les yeux ce qui finira par lui brûler la rétine et par faire de lui un aveugle non pas de naissance, mais de malchance. Ce poupon, c'était Carlos. Il n'était qu'une petite crevette de 6 mois à qui le monde se présentait sous forme de flash quand le rideau de l'obscurité tomba à jamais sur sa vie. Selon ses propres dires, c'est peut-être mieux comme ça, car s'il avait vu la lumière, il en aurait sans doute été nostalgique toute sa vie. Ne l'ayant jamais perçue, elle peut difficilement lui manquer. Mais est-ce possible de regretter ce que l'on ne connaît pas? Seul Platon, le grec le plus éclairé, aurait pu poser aussi étrange question. Pour lui, nous portons toutes les connaissances en nous, il suffit de s'en ressouvenir. Mais pour cela, il faut convertir le regard, laisser les apparences et le monde extérieur entre les mains de la doxa et chercher la lumière, la connaissance et la vérité à l'intérieur de nous-mêmes. L'affaire semble simple, mais en réalité, elle ne l'est pas. À moins d'être un philosophe né comme Carlos. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Carlos ne voudrait surtout pas voir, maintenant qu'il est arrivé au mi-temps de sa vie et qu'il a compris tant de choses sur sa condition qu'il considère comme un privilège. Comme Platon, il pense lui aussi que nous sommes porteurs de toutes les connaissances et que même lorsqu'on n'a jamais contemplé la lumière du jour avec nos propres yeux, elle est en nous. Un autre regard sur la frontière. Depuis son enfance, la persévérance ou la cabeza dura, la tête dure, est le trait le plus marquant de la personnalité de Carlos. Au cours de sa jeunesse, le jeune mélomane surdoué se butait constamment aux préjugés. Même à la renommée Universidad del Valle, à Cali, personne ne voulait lui enseigner le piano parce que c'était compliqué d'enseigner la musique à des gens comme lui. Cela motiva en grande partie sa famille à tenter sa chance au pays de l'oncle Sam. Connaître un pays par tous les autres sens à part la vue, c'est ressentir, sans filtre, la vibration du lieu à son état le plus pur. Carlos ne mettra donc pas beaucoup de temps à se rendre compte que les États-Unis ne l'intéressent pas. Ni le climat de West Palm Beach, en Floride, ni la présence d'une grande communauté d'Hispano-Américains qui parlent sa langue et partagent une certaine culture commune n'arrivent à le convaincre de rester. Il ira au pays de l'hiver, là où on lui a dit que la lumière était éclatante 6 mois par année. C'est ce qui l'appelait. Il faut déjà un courage hors norme pour se décider à traverser clandestinement, à ses risques et périls, la frontière canado-américaine afin de demander l'asile. Mais comment qualifier ce courage lorsque cette décision est prise par une personne non-voyante? En compagnie de son chien et de 2 autres comparses nés du mauvais côté de l'histoire, Carlos tentera sa chance une première fois près de la colle. Ils seront découverts par les gardiens de la loi du côté américain, ceux qui ressemblent, par leurs vibrations, aux chiens enragés, assure Carlos. Les malheureux clandestins seront remis aux autorités américaines puisque c'était leur dernière destination, et seront jugés puis finalement relâchés par les juges de l'immigration qui leur suggéreront de retenter la chance au pays de Disneyland. Car selon les magistrats, tout est possible, il ne faut jamais perdre l'espoir. Oui, tout est possible, pensa Carlos, comme tenter sa chance une 2e fois pour passer du côté canadien, afin de vivre au pays de la poudrerie et de l'éternel éclat blanc. C'est exactement ce qu'il fera. 2 tours à nouveau, direction le nord magnétique pour la 2e fois. Un désir renforcé par la meilleure vibration qu'il perçoit au contact des gardiens de la loi du côté canadien. Pas des chiens enragés, seulement des humains qui tentent de servir avec dignité d'autres humains en détresse. Je suis têtu, je le sais, mais j'ai basé mes choix de vie sur des considérations rationnelles auxquelles d'autres ne pensent pas, comme le transport en commun. Aux États-Unis, les non-voyants dépendent des autres pour se déplacer. Au pays de la blancheur éternelle, il m'est possible de prendre seul le bus, de sortir au milieu d'une rue silencieuse ralentie par une tempête de neige et de sentir le bonheur de mon chien lorsqu'il se roule dans la neige. Et ça, ça n'a pas de prix. Ce sont des considérations d'un autre type, mais elles sont vitales. Comme est vitale la première impression. Une fois traversée la frontière canadienne, le plan initial était d'aller en Ontario pour visiter une amie colombienne et rester près d'elle. Mais lorsque Carlos a ressenti pour la première fois les ondes vibratoires de Montréal, il a eu l'impression que la ville l'embrassait, l'enveloppait et l'accueillait, comme si elle était sa 2e mère. Une mère patrie, la vraie. À l'instar de tous les coups de foudre, ce fut immédiat, total, entier, sans équivoque. C'est sans doute ce qui lui fait dire, même des années après, « Vivo enamorado de Montréal, a pesar de todo. » Je ne cesse de tomber amoureux de Montréal, malgré toutes les difficultés. Car des difficultés et des barrières invisibles, il y en a eu et il y en aura toujours. Comme celles qu'on dresse régulièrement devant Carlos, en réduisant ses possibles aux formulaires et subventions gouvernementales et leurs nombreuses conditions. Aller à gauche plutôt qu'à droite, parce qu'étant limité, c'est là que se trouvent les programmes spécialement conçus pour lui. Aller à tel atelier pour apprendre comment chercher de l'emploi, plutôt que d'en trouver. Aller à telle école de francisation plutôt qu'à une autre, parce que c'est mieux pour lui. Aller dans un groupe pour les non-voyants pour apprendre comment se connecter à ses émotions. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de ne pas me mettre toutes ces barrières, parce que, paradoxalement, je les vois partout. Ricane, mi-sarcastique, mi-sérieux, celui qui est tout de même reconnaissant d'avoir pu accéder à la citoyenneté canadienne malgré les nombreux obstacles administratifs auxquels il a dû faire face. Le courage de traverser clandestinement la douane canadienne quand on est non-voyant est un exploit en soi. C'est pourquoi, précise-t-il, j'aimerais qu'on me laisse seulement exploiter tous mes possibles. De l'autre côté de la vue. Souvent, on lui demande s'il ne rêve pas de retrouver la vue grâce aux avancées technologiques. Surtout pas. Je ne veux pas voir. Moi, je veux ressentir. Découvrir le monde par mes autres sens. Selon lui, il a d'une certaine façon été choisi pour ressentir le monde différemment. Un jour, une amie lui parle de la célèbre nouvelle de Jorge Luis Borges, El Otro, l'autre, dans laquelle l'aveugle et prolifique écrivain argentin s'imagine rencontrer son double, c'est-à-dire lui-même, mais beaucoup plus jeune. Malgré les conseils de l'aîné, le jeune n'écoute pas. Il faut inévitablement qu'il passe par le même chemin pour apprendre. Tu veux savoir ce que le Carlos d'aujourd'hui dirait au Carlos d'hier? Il lui dirait ceci. Sois conscient et reconnaissant du cadeau que la vie t'a fait de ne pas voir. Les yeux, c'est un cadeau empoisonné, parce que les gens qui voient regardent seulement la surface des êtres et des choses. Voir, c'est donc ne pas voir l'essentiel dans un monde rempli de frontières invisibles. Or, il y a tant de choses à ressentir dell'otro lado de la vista, de l'autre côté de la vue. À la question s'il avait déjà entendu parler du soleil intelligible de Platon, le surdoué musicien répond « Non, mais je sens que c'est un soleil métaphorique, celui qui m'est donné à voir au quotidien. » C'est aussi le plus vrai. C'était « Les barrières invisibles », un texte de Maya Ombazic paru dans la revue Relations, dans le numéro 812, automne 2022. Je crée des instants doux, un texte de Ève Martel dans le magazine Bel Âge. Saviez-vous que la douceur a plus d'un visage? Découvrons-les et adoptons-les tous afin de trouver la plénitude au quotidien. Au début du printemps dernier, essoufflé par la charge mentale d'un hiver lourd en émotions et en projets, j'ai décidé de créer ce que j'ai nommé les matins pour moi. Cela signifiait que les premières heures de chaque journée seraient dorénavant consacrées à mon bien-être sous forme de trois habitudes. Marcher 30 minutes dans le parc près de chez moi, prendre une bonne douche chaude suivie de soins de beauté et remplir une page de mon journal en buvant mon café. Me poser pour réaliser ces activités dès mon réveil s'est révélé à être une façon fantastique de vivre lentement, paisiblement. Mes nouvelles habitudes me rappelaient que je suis plus importante que ma liste de tâches et que prendre soin de moi est un moteur de bonheur pour le reste de ma journée. J'avais créé mon rituel douceur et il me faisait beaucoup de bien. Évidemment, ces petits bonheurs peuvent prendre un autre visage et avoir lieu à n'importe quel moment de la journée. Passer du temps au parc avec son animal de compagnie, appeler un proche ou jouer une ronde de golf devant un écran ou sur un terrain en saison, par exemple. Cela permet d'éviter de commencer sa journée le nez dans les mauvaises nouvelles à la télévision ou en fouinant sur Internet. Ce stress peut attendre. L'important est de choisir des moments qui nous rendent sereins. voici trois pistes à suivre pour orienter nos choix de moments doux. Notez ce qui nous fait du bien. Pour moi, c'était de m'accorder du temps en matinée, mais pour une autre personne, cela peut être de profiter davantage d'un loisir, de diminuer les engagements et la pression sociale, ou, au contraire, de créer plus d'occasions pour passer du temps avec son entourage. Je conseille d'observer et de noter les moments où l'on ressent de la joie, de la paix, voire un sentiment d'accomplissement. Ces constatations aideront à créer de nouvelles habitudes de douceur. Profitez des petits bonheurs de la vie. Allumez enfin la belle bougie qu'on a reçue à Noël il y a 2 ans. Sirotez le whisky fin qu'on réserve habituellement aux visiteurs. La leçon à intégrer ici, c'est de réaliser que le meilleur temps pour apprécier ce qu'on a, c'est maintenant. Faire acte de présence. Au fond, ce que je suggère, c'est d'être plus présent dans notre propre vie. Car jouer un rôle plus actif dans la composition de notre quotidien est un acte d'amour propre. Oui, il est important d'être là pour nos proches, mais penser un peu plus souvent à ce qui nous fait sourire, sans avoir de compte à rendre, aidera à oxygéner notre mieux-être. C'est le temps de reconnaître notre propre valeur et d'accepter que nous méritons de souffler, de nous chouchouter et de renouer avec la beauté de vivre lentement, à notre façon. Je mise sur la douceur, en explorant ce qui m'apaise, en m'offrant davantage de petits plaisirs, en étant plus présent à moi-même. C'était « Je crée des instants doux », un texte de Ève Martel dans le magazine Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Dominique Desrosiers et Luc Mercure à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.